On va retrouver Maître Annie-Élisabeth Gérard, à qui on n'a pas parlé depuis déjà quelques semaines. Maître Gérard, bonjour.
Bon matin.
Merci de vous entretenir avec nous. Aujourd'hui, on vient sur cette nouvelle. Gilles Duceppe, ses frères et sœurs qui demandent à la résidence pour aînés autonome Luxe Gouverneur un dédommagement d'$1,140,000. On le rappelle, l'hiver dernier, la mère de famille, Madame Rowley Hutt, qui est décédée, elle qui avait été pendant de nombreuses heures au grand froid. Puis on avait soulevé des doutes, puis on disait qu'il y avait quand même matière à poursuite parce qu'il y avait certaines choses qui n'ont pas été respectées de la part de la résidence pour aînés. Alors, comment vous analysez ça à première vue, là, cette réclamation qui est faite?
Bien, je crois que cette procédure-là était envisageable et puis qu'on devait s'y attendre, là, parce que lorsque l'on regarde les informations qui ont été véhiculées, là, il y a probablement une faute des employés et de l'administration dans la gestion de l'exercice de feu qui a été fait ce soir-là. Alors, il faut se souvenir là, que c'était vraiment un exercice. Alors, les employés, les préposés devaient mettre en place des paramètres de sécurité pour s'assurer que tout le monde sorte et que tous les résidents également puissent revenir à l'intérieur. Alors, ce que l'on apprend, c'est que cette dame-là a été oubliée tout simplement par les employés et les préposés, ce qui est tout à fait inacceptable. Ça constitue une faute dans la surveillance, la sécurité, la gestion de l'exercice de feu qui a été fait. Alors, partant du fait qu'il y a probablement une faute des employés puis des préposés, maintenant, bien, les dommages, on les connaît. Mm-hmm. Et puis, vous savez, on en parle souvent dans un cas de responsabilité civile. Il faut établir la faute, les dommages et le lien causal. Alors, le lien causal entre les dommages, savoir le décès de cette personne-là et la faute est évident. Là. Cette dame-là est restée dehors à des températures épouvantables. Alors, une fois que la faute est établie, que le dommage est établi, que le lien causal est établi, il reste à quantifier maintenant comment ça vaut. Comment ça vaut une vie? Alors, ce sera au tribunal à déterminer le montant des dommages, les souffrances que cette dame-là a eues et également la souffrance des membres de sa famille parce que c'est, ben oui. C'est une femme qui était en santé, là, de ce qu'on comprend.
Oui, on dit qu'elle n'avait que des problèmes de surdité, mais rien de majeur, mais quand même une dame de 93 ans au grand froid, il faisait moins 35 cette nuit-là. Et surtout, le point sur lequel on revient régulièrement dans cette histoire-là, c'est qu'il y avait des caméras de surveillance, mais il n'y avait personne pour les regarder au sein du personnel.
Très, très, très difficile à comprendre, d'autant plus qu'il s'agissait d'un exercice de feu. Alors, les employés savaient ce qu'ils devaient faire et assurer la sécurité des gens dehors, me semble que c'était un minimum. Alors, dans l'analyse de la faute, là, ce qui va aussi être regardé, c'est toute la gestion de l'information qui a été faite après. Alors, vous savez, il y a peut-être des employés qui ont parlé aux médias, sur les réseaux sociaux. Ça aussi, ça va être pris en considération et ça peut être administré en preuve. Alors, ce qui a été dit, ce qui a été filmé aussi et la façon dont les informations ont été transmises après. Alors, qu'est-ce qui a été fait avant, qu'est-ce qui n'a pas été fait, puis qu'est-ce qui devra être fait à l'avenir? C'est une chose qui doit être analysée par cet établissement-là, tout comme pour les autres établissements, j'en suis certaine.
Parce qu'on parle d'atteinte illicite et intentionnelle aux droits fondamentaux. À quoi ça consiste exactement, ça?
Bien, là, l'atteinte intentionnelle, je ne pense pas que ces gens-là, de manière intentionnelle, ont laissé cette dame dehors. Je pense que c'est une grave erreur, ça c'est certain, mais c'est pas pour que ça soit une atteinte intentionnelle, il faut avoir voulu causer du tort. Alors, ça je suis pas certaine, il manque des informations pour vous dire oui ou non, il y a une atteinte intentionnelle, mais pour atteindre aux droits fondamentaux de quelqu'un, de manière intentionnelle, bien, il faut qu'il y ait une volonté de nuire. Disons, j'atteins à votre bonne réputation, j'atteins à votre vie privée parce que je veux que vous perdiez votre travail. Alors, l'intention, c'est de nuire à votre vie privée. Disons, je vous filme chez vous et là, je diffuse ça sur les réseaux sociaux parce que j'ai l'intention de vous faire perdre votre travail. Bien, là, il y a une intention. Mais dans ce cas-là, je ne pense pas que les employés voulaient la mort de cette personne-là. Là, si c'était ça, ça serait d'autres choses, bien plus qu'une poursuite en responsabilité civile.
Ben, évidemment. Ben, on n'en saura plus, évidemment, lors du procès, puis on verra la suite des choses.
c'est peut-être une chose qui va se régler hors cours aussi.
C'est
là.
Possible, ouais.
Et le cas échéant, bien, il y aurait fort probablement une clause de confidentialité qui interdirait aux parties de divulguer aux médias et à quiconque le montant du règlement et les raisons du règlement. Alors, quand on règle en recours, on règle toujours sans préjudice ni admission, justement pour éviter les coûts afférents à un procès et les aléas également. Alors, dans ce cas-là, il y aura probablement un règlement qui pourrait intervenir et c'est certain que il y a une gestion de risque qui va être analysée. Le coût de la mauvaise publicité en est un important aussi.
Maître Annie Elisabeth Gérard, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir.
Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir. Et on parle quand même d'un rapport accablant de la coroner. On dit le décès est le résultat d'une série d'événements et il aurait pu être évité.